table. Resto, radio, loco loco. Erdiwa. Mes chers parents, l'autre jour, c'est un lundi, je m'en souviens. Lundi matin, début de semaine, rebelote, on remet ça. 8h30. Le dernier café sur le banc, adossé à la vitrine, en blouse blanche, pas tout à fait blanche. Va falloir y aller. Poulet mariné, comme d'habitude. Gratin de courgettes, c'est la saison. Ou alors, clafoutis. Ou peut-être un tian. Pourquoi pas? Je ne sais pas. J'ai pas trop envie. Une cigarette? Non, pas de cigarette. Faut y aller. Dans la fraîcheur du matin, à quelques pas, au commencement de la rue, il y a un type qui s'avance. Il porte un sac de montagne sur le dos, un chapeau, de grosses chaussures de cuir. Il passe devant moi, apparemment décidé à ne faire que passer. Voilà un type qui doit être bien heureux d'aller là où bon lui semble. C'est un marcheur. Il a une coquille Saint-Jacques qui pendouille sur le haut de son sac. Je rêve un peu. Quelle belle journée pour aller sur les chemins, à la fraîche, droit devant soi, libre et joyeux, en haut des cimes, là où l'on peut tout voir, tout comprendre, tout décider, tout imaginer. Alors, encouragé par tant de liberté, je lui dis de plein cœur « Bonne balade !» L'homme ne semble pas comprendre. Il s'arrête à ma hauteur. Je vous disais « Bonne balade !» Un rien farouche, un peu surpris, il me répond « Ça fait 29 ans que je me balade. » Ben alors, il me vient une chose naïve, un peu stupide, la chose qui veut dire que je n'ai rien à dire de plus. « C'est chouette !» je réponds, avec un sourire, un peu terne peut-être. « C'est pas possible. Je n'en crois pas mes oreilles. Heureusement, je suis resté assis sur mon banc, avec ma blouse blanche, pas tout à fait blanche. Il me répond un truc. Je crois ne pas comprendre, je ne sais pas, j'ai peur. Il vient de me dire, je lui fais répéter, c'est mieux de travailler pour la société. Une phrase avec un point d'interrogation vague au bout, mais qui déjà donne une réponse, vague. La société, c'est qui, c'est quoi? Est-ce que je travaille pour la société? Vous qui faites du maraîchage ou de la radio, vous qui élevez des chèvres ou qui soignez les malades, vous travaillez pour la société? Mon Dieu, la société, celle qui fabrique des armes ou qui enferme ceux qui ratent tout, même leur hold-up à main armée. Non, 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 pas celle-là. Pas cette vieille demeurée qui pique et qui sent de la bouche. Non, plutôt celle qu'on invente, chacun et chaque jour. Celle que l'on crée soi-même avec sa tête, avec son cœur. Celle qui fait du bien parce que l'on s'entoure de repères aimants et rassurants. Tiens, je pense à ce gars qui souvent propose qu'on lui laisse quelques pièces de monnaie dans un chapeau. Toujours au même angle de la rue, fidèle au poste, et qui, depuis quelque temps, vend aux passants quelques bouquins dénichés de ci, de là. Depuis, il rayonne autrement. Il a quelque chose d'heureux. Il existe différemment. Il est devenu vendeur de livres. J'allais dire vendeur de libres. Peut-être qu'au fil des jours, en rêvant, maintenant, tout devient possible. Il s'imagine dans une bouquinerie, libraire, avec une belle devanture, un beau comptoir, une porte qui fait « ding-dong » et des étagères qui sentent bon le bois. Ce monsieur, c'est sûr, il travaille pour la société, celle des lecteurs en tous les cas. Vive la société des amoureux et des bienheureux. Vive la société de ceux qui disent « il n'y a pas de raison pour que toujours d'autres pensent pour nous ».
De pie, cantar, que vamos a triunfar, avanza ya, banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto, tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anunciará la vida que vendrá. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.
De pie, luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate
se alzarán, dirán canción de libertad,
con decisión la patria vencerá.
Y ahora el pueblo que salza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido.
De pie, cantar, el pueblo va a triunfar.
Y yo, Mesías, y ponen la verdad.
De acero son, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia, la razón. Mujer, con fuego y con valor. Ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha.
El pueblo unido jamás será vencido, de Guy Lapayoun, interprété par Zebda. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table une grande femme belle et brune, qui porte toujours des pulls incroyables et des chemises avec des coutures qu'on se demande comment c'est fait. Et tous les mercredis, à 15h, elle arrive au Loco-Loco. Je lui dis « Oh, c'est toi qui as fait ça ?»« Oui », elle répond avec un sourire qui parle. Et puis, elle mange une mousse au chocolat, toujours avec l'index. C'est meilleur. Et puis après, Elle me parle d'un truc de la vie, un truc du monde. Nous rions quand même, nous rions ensemble du monde et de la vie. Après, elle dit « Bon, il faut que je sorte le matos. » Le matos, c'est des machines à coudre, une planche et un fer à repasser, un stock de tissus, des bobines de toutes les couleurs. Voilà, 15h10, le garage à fringues est ouvert et je suis heureux. Cette femme, belle et brune, qui tricote toujours en regardant ailleurs, loin dans la tranquillité d'un sourire aimant, c'est Marianne Godez. Couturière, tricoteuse, costumière, artisan, combattant. Marianne accompagne tous les mercredis de 15h à 20h ceux qui veulent fabriquer ou réparer leurs fringues aux locaux. Mais pas que. C'est pas tout. Et vous allez l'entendre. Nous allons suivre maintenant le fil de son histoire. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais, ça va.
Marianne, à 28 ans, quand tu avais 28 ans, il y a quelques temps.
Il y a quelques temps, ouais.
Ouais. Après avoir exercé plein de petits boulots, envisagé plusieurs formations professionnelles, passé le bac, après avoir eu un enfant, après avoir vécu dans plein d'endroits, tu tombes malade et tu t'achètes une machine à coudre.
C'est ça, ouais.
Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ?
Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Je crois qu'il ne se passe rien, vraiment. Donc, je sais que je suis gravement malade, un cancer, wow, ça fait peur. Et en fait, j'ai dû vachement pleurer, avoir vraiment une trouille phénoménale. Et à un moment donné, je tombe dans un trou et au fond du trou, je me dis rien, en fait. J'achète une machine à coudre.
Et tu sais déjà ce que tu vas faire avec la machine
à coudre ? Ah, pas du tout, oh là là. Non, pas du tout. Jusque-là, j'avais beaucoup cousu à la main. Et je ne sais pas pourquoi cette machine à coudre, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi cette idée-là, ça venait de nulle part.
Déjà enfant, avec ta grand-mère, tu t'essayais à la couture. Elle était elle-même couturière.
Oui. Elle était un peu vache avec moi. Elle me faisait faire des trucs qui ne me servent à rien aujourd'hui. Elle me donnait les toutes petites chutes, tu vois, j'avais pas droit aux chutes un peu conséquentes, non, c'était vraiment les tout petits morceaux. Donc, vu d'ici aujourd'hui, c'était un peu vache, mais quand j'étais dedans, je me posais pas de questions, et je faisais avec ce qu'on me donnait, et je faisais des trucs, j'arrivais à faire des trucs avec ce que j'avais. Donc... Pendant très longtemps, je ne me suis pas posé de questions sur ce que je faisais avec tout ça. C'est seulement maintenant que je comprends que peut-être elle m'a donné le goût du tissu, du fil, de rabibocher avec des petits trucs, d'arriver à en faire des grands. Je ne sais pas trop.
Avec des petits bouts, tu faisais quoi ?
Je faisais des nœuds parce qu'en fait, c'était plus facile que de prendre du fil, une aiguille, pour faire un nœud, tout ça. Donc, je nouais les petits bouts de tissu entre eux. Et de nœud en nœud, j'arrivais à faire des toiles assez grandes. J'appelle ça des toiles. Ouais, un peu comme les toiles d'araignée. Ça ressemblait, il y avait des trous. J'assemblais avec les couleurs. Je regardais, c'est les couleurs qui me parlaient, qui faisaient que j'assemblais celui-ci avec celui-là, et pas vraiment j'avais pas d'objectif, je cherchais pas à faire un vêtement ou une couverture ou je ne sais quoi, mais c'était juste d'assembler des couleurs, des petits bouts de couleurs.
Et avec ta machine à coudre ? Tu trouves des tissus, un droit à gauche.
Alors, une fois que j'ai acheté la machine à coudre, j'ai plus un rond, donc je peux pas acheter du tissu et je fouille dans le bordel que j'ai chez moi. Je trouve des bouts de torchons, Je sais qu'au début, il y a eu un drap quand même, c'était quand même assez grand. Mais le drap était taché, donc ça réduisait. Je voulais pas utiliser les taches. Puis finalement, les taches, elles y sont passées aussi. J'ai tout coupé, tout ce que j'avais sous la main, j'ai tout coupé en tout petits bouts et j'ai fait des trucs tout petits, pour m'exercer. J'avais besoin, je sentais que je savais pas faire et qu'il allait falloir que j'apprenne. Et comme j'avais pas beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de tissus, et ben, j'ai fait des petites choses avec le tissu que j'avais. Et je me suis... J'y ai passé beaucoup de temps. Je sais pas si je me suis vraiment amusée. Je crois que oui. Je crois que ça m'a... ça m'a aidé à sortir du trou, du trou très profond dans lequel j'étais. Et petit à petit, de marche en marche, je suis arrivée à remonter.
Alors, quelques années plus tard, tu entres en formation à l'école de costumière de Lyon. Quel chemin déjà parcouru
Oui, oui.
Et tu commences là un véritable apprentissage.
J'avais déjà beaucoup appris, je ne m'en rendais pas compte, mais j'avais déjà beaucoup appris à droite, à gauche. Et je me retrouvais dans mon apprentissage avec des pièces éclatées. Et quand je suis rentrée dans cette école, ça m'a permis de recoller tous les morceaux et d'avoir une image. Plutôt que d'avoir des pièces comme un puzzle avec des pièces toutes éclatées, là, pendant la formation, j'ai réussi à recoller les morceaux pour que ça forme une image. Et quand je suis sortie de cette formation au bout de 9 mois, je savais que j'avais envie d'être costumière et que voilà, la route était tracée. Alors qu'avant, je savais que j'avais envie de coudre, mais je ne savais pas dans quelle direction. Parce que finalement, avec une machine à coudre, c'est absolument incroyable tout ce qu'on peut faire. Donc il fallait que je trouve une direction quand même. Et la formation m'a permis de choisir une direction.
Et la direction, c'est costumière.
Costumière, ça sonne bien. Hein.
Costumière de spectacle. Tu rêves de spectacle.
Ouais.
Et de paillettes et de couleurs.
Ah oui, de paillettes. Oh ouais. Peut-être à ce moment-là, je rêvais de voir mon nom en néon, en grand et en néon. En couleur. Au tout début, oui, j'avais envie de gloire, d'être connue. Peut-être parce que ça faisait longtemps que je ne voyais plus mon père et qu'à ce moment-là, je me disais que si j'arrivais à la gloire, mon père, il entendrait parler de moi.
Et il a entendu parler de toi ?
Je ne crois pas, non. Non, je n'ai jamais eu la gloire. J'ai eu la galère, mais pas la gloire.
Après ta formation, tu intègres une compagnie de spectacle. Alors c'est comment la vie d'une costumière de spectacle qui n'est pas une vedette et qui n'a pas son nom en grand en haut des affiches.
Eh ben, ça va en zigzag, ça avance en zigzag. C'est vrai que j'ai intégré une compagnie, mais qui m'embauchait pas à plein temps et du coup je travaillais pour d'autres compagnies. Ça faisait des moments très intenses qui montaient en stress parce que le spectacle arrive de jour en jour, donc on a de moins en moins de temps pour faire tout le boulot qu'il y a à faire et c'est le stress augmente. Et puis y a le jour de la générale, la première, et là le stress tombe d'un coup et puis on a quelques jours pour récupérer quand même, et puis on passe au spectacle suivant, une nouvelle compagnie, des gens qu'on ne connaît pas, des fois, faut intégrer une équipe, donc de nouveau, s'adapter. C'est pour ça que je parle d'une carrière en zigzag, parce que de fil en aiguille, j'ai pas eu la gloire, mais j'ai travaillé avec plein de gens très différents, dans des projets vraiment très très différents. Des intellos, des farfelus, tout et n'importe quoi, du cirque, du théâtre, où on se prend bien la tête, voilà. Et tout ça, ça fait une belle expérience finalement, et ça fait un beau chemin, même si ça ne va pas tout droit.
C'est une période heureuse, riche de rencontres.
Riche de rencontres, oui. Heureuse, je me suis pas rendue, je me suis pas posé la question si j'étais heureuse ou pas. Je crois que je me disais que j'étais sur ma route déjà, que c'était énorme pour moi à ce moment-là, d'être dans le bon chemin.
Et durant, auprès de cette compagnie de spectacle, tu crées des costumes de, ouais, de A à Z.
De A à Z. Je conçois le costume, je le fabrique. Et puis, quand dans l'équipe, ça change un petit peu, il y a un nouveau comédien, il faut remettre le costume à ses mesures. De temps en temps, le costume, on le met au rancard, donc il faut le stocker, qu'il vieillisse pas trop mal. Et puis des fois on le ressort, donc le remettre au goût du jour s'il y a besoin. Voilà, donc je suis les costumes dans le temps. Et ça, je trouvais que pour moi c'était vachement intéressant, dans la mesure où j'avais un petit peu tendance à papillonner, à passer d'un truc à l'autre, d'avoir eu la chance de suivre pendant plusieurs années ce que j'avais fait. C'était vraiment une chance pour moi. Ça m'a aidé à me construire, à me poser un peu.
Après quelques années de travail auprès de ces compagnies de spectacle, une dizaine ou une quinzaine d'années, je crois, tu me disais.
Je ne sais pas trop, ouais. Je n'arrive pas à compter le temps. Puis c'est un petit peu compliqué parce que j'y ai arrêté doucement. Du coup, il y a au moins, je suis sûre qu'il y a au moins 10 ans, peut-être 15 d'activité intense. Et puis après, ça diminue tout doucement.
Et petit à petit, tu quittes la ville de Lyon. Et tu arrives avec ton camion Adi.
C'est ça, oui. Donc, c'est vrai que je suis dans un camion. Et un atelier dans un camion, ça ne tient pas. Donc, j'ai trouvé un atelier. Et cet atelier, je l'ai trouvé à la Griotte, Adi. Donc, j'ai pu avoir un camp de base, on va dire. Et je pensais que j'allais beaucoup bouger et puis revenir sur mon camp de base de temps en temps. Et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup bougé, mais autour de mon camp de base, pas si loin que ça. De temps en temps, j'allais un peu plus loin, mais j'ai beaucoup bougé dans le Diwa. J'ai trouvé la région magnifique. Je me suis promenée dans le coin. Des fois, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres pour voir des choses belles.
Et dans cet atelier à la Griotte, qu'est-ce que tu fais ?
Bah, au début, je suis encore costumière. Mais je commençais à me poser des questions, notamment dans le Diwa, il y a une chose que j'ai découvert, enfin je connaissais, mais que j'ai pu goûter d'un peu plus près, c'est la nourriture bio. Et je me retrouvais avec quelque chose de bio dans mon assiette, et j'ai commencé à me dire que ça serait bien que ce soit bio sous ma machine à coudre aussi, parce que pour moi ça a beaucoup d'importance, mon travail. Et je vois bien que... Je savais que... le coton, c'est une culture, ça vient de l'agriculture en fait. Tout ce que je travaille, pour moi, ça vient de l'agriculture. La racine, c'est l'agriculture. Le coton, c'est une plante, ça se cultive. La laine, c'est un animal. La soie, ça vient d'un animal. Donc les matières que j'aime, le cuir, ça vient d'un animal. Donc toutes les matières que j'aime, elles viennent de l'agriculture. Et je commençais à me dire que ça serait bien que ce soit bio. Parce que quand c'est pas bio, c'est vraiment... c'est trash, quoi. La culture du coton, c'est trash. Et puis après, la transformation, tout ce qu'on appelle l'ennoblissement textile, c'est de la chimie très lourde. Donc je commence à me dire, cette chimie très lourde, elle m'embarrasse, surtout j'ai un vague souvenir d'avoir eu un cancer et que peut-être ça peut faire partie des causes de l'augmentation du cancer de nos jours. Donc je me questionne, je cherche et je commence à trouver du chanvre bio par exemple ou du coton bio et ça me donne envie de fabriquer des vêtements bio.
Des vêtements bio que tu veux donc fabriquer, adresser, vendre
tant qu'à faire,
sur le marché.
Au moment où je cogite ça, en fait, j'ai pas d'expérience de la vente parce que moi j'ai toujours travaillé sur commande finalement et puis sans me préoccuper de plaire. En fait, ma préoccupation jusque-là, c'était de correspondre à un personnage. On me donnait un personnage et je cherchais à donner une image de ce personnage qui puisse renvoyer à des émotions, à une époque, par exemple. J'ai fait pas mal de vêtements historiques. J'ai aucune expérience de la vente. Le commerce, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Donc, quand je pars sur l'idée de faire des vêtements bio, je ne me demande même pas ce que je vais en faire. Je ne pense pas à écouler un stock. C'est quand je commence à en avoir fabriqué un peu que je me pose la question. C'est un petit peu tard, peut-être, mais bon, voilà, les choses, pour moi, se sont passées comme ça. Donc, je commence à me retrouver avec un petit stock. J'en parle autour de moi. Il y a quelques personnes que ça intéresse, qui m'achètent des trucs. Je vois les réticences quand je leur annonce le prix, par exemple, parce que c'est vrai que une pièce fabriquée artisanalement, en général, à ce moment-là, j'arrivais à faire des séries de 3 ou 5 pièces. Donc, c'est quand même vraiment pas beaucoup par rapport à l'industrie. Du coup, ça fait vraiment monter les prix de manière incroyable. Et là, je me retrouve confrontée au problème de la vente. Ouais.
Et alors, tu décides d'ouvrir un petit commerce, un petit magasin,
ouais,
rue de l'Armellerie.
Ouais.
Et un petit commerce qui s'appelle Le Retour d'Ulysse.
Le Retour d'Ulysse. Parce que quand Ulysse y revient, dans mon esprit, Pénélope, elle arrête de défaire le jour, de défaire la nuit, pardon, ce qu'elle a fait le jour. L'histoire d'Ulysse, Ulysse se barre, il va faire la guerre à Troie, ça dure 10 ans, c'est pas mal quand même, 10 ans. Et puis le voyage du retour, 10 ans aussi, parce qu'il se perd un peu en chemin, il rencontre une jolie poulette, enfin voilà, tout ça, donc il met 10 ans à revenir. Et du coup, Pénélope, elle se retrouve toute seule pendant 20 ans. Elle gère le royaume, parce que c'est un royaume à gérer. Le roi est parti, c'est la reine qui se démerde, quoi. Elle élève son fils aussi, toute seule. Et puis elle se retrouve confrontée à des prétendants, parce qu'au bout d'un petit moment, que Ulysse ne revient pas, il y a des tas de gens qui la trouvent jolie, et puis qui se marieraient bien avec elle, qui remplaceraient bien Ulysse. Et elle est très amoureuse de son roi, et elle est persuadée qu'il va revenir, et elle lâche pas le morceau, elle trouve un truc pour dire aux prétendants « attendez un peu ». Elle leur dit « je vais tisser un voile magnifique pour mon mariage, et quand il sera fini, je choisirai lequel d'entre vous je vais épouser ». Et donc pour faire durer le plaisir et puis laisser le temps à Ulysse de revenir, elle va défaire la nuit ce qu'elle a fait le jour. Et moi j'ai un petit peu l'impression que dans ma vie j'ai passé beaucoup de temps à défaire la nuit ce que j'avais fait le jour, que j'avançais pas très vite. Donc le retour d'Ulysse.
Et Ulysse revient.
Et Ulysse enfin est revenu. Et du coup, je peux arrêter de défaire la nuit ce que j'ai fait le jour. Et du coup, je me repose la nuit, je dors, c'est pas mal. Et le jour, je fais des choses que je peux montrer.
Alors aujourd'hui, tu continues à fabriquer des vêtements, à inventer aussi des patrons de vêtements et de pull-over, c'est ça?
C'est ça, oui.
Donc tu proposes des patrons, tu fabriques des vêtements, et tu accompagnes aussi les uns et les autres, enfin ceux qui veulent créer ou réparer leurs fringues. Alors, tout ça commence, et ça s'appelle le garage à fringues. Et tout ça commence à l'espace social.
Oui. Donc, l'espace social m'a accordé un endroit pour pouvoir démarrer le garage à fringues. C'était une idée qui était née dans la boutique. Au moment où j'ai fermé, j'avais vraiment envie de... Quand j'étais dans la boutique, non seulement je faisais des vêtements bio, mais en plus je faisais de la retouche, je réparais des vêtements, je faisais des ourlets, voilà, des choses courantes dans le vêtement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer mes services, mais qui auraient bien aimé apprendre. Donc quand j'ai fermé boutique, je me suis dit, je vais faire ça, je vais apprendre à ceux qui en ont envie à faire un ourlet, coudre un bouton, voire plus si ça les branche. Et donc j'ai contacté l'espace social et j'ai demandé un local pour pouvoir faire ça. Je suis allée en direction de l'espace social naturellement parce qu'il me semblait que la couture, ça peut faire du lien social. En fait, je pense que je vis dans... Enfin, je constate tous les jours que je vis dans un monde où on manque vraiment pas de textile et vouloir en rajouter, c'est pas forcément nécessaire et que ça serait peut-être intelligent d'utiliser ce qui existe au lieu de le foutre à la poubelle. Voilà, c'est vraiment un truc basique de chez basique, je suis partie de ça. Donc, réparer pour éviter de mettre à la poubelle. Réparer aussi parce qu'on n'a pas tous un budget énorme pour acheter des vêtements. Ça, je l'ai vécu dès le début, quand j'ai commencé à faire des vêtements et à plus faire des costumes, mais à faire des vêtements pour le civil, j'ai envie de dire. J'ai tout de suite repéré qu'il y a des gens, quand on leur annonce le prix d'une chemise, par exemple, tout de suite, ils baissent les bras et ils savent que ce n'est pas pour eux, ils n'ont pas le budget. C'est vraiment un problème de budget. Donc, comment faire pour arriver à travailler avec ces gens-là qui n'ont pas le budget? Et puis, peut-être aussi à mélanger les gens qui ont le budget et les gens qui ne l'ont pas. Parce que il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'on a du fric qu'on est quelqu'un de différent, si on est différent, mais on a les mêmes droits, on est égaux en droit, ça c'est dans la Constitution. Donc comment utiliser cette égalité en droit? On a tous le droit d'apprendre à coudre un bouton, même si on a les moyens de se payer 25 chemises par jour, ça n'empêche pas de coudre un bouton. Donc je suis allée vers l'espace social parce que pour moi il y avait social. Et ça, c'est la chose qui m'attirait. Autour de la couture, je pense que je le vis chaque semaine dans le garage à fringues. Quand on est occupé à coudre, il se passe des choses vraiment chouettes. C'est-à-dire que on oublie pendant... Ça fait une pause, on oublie le temps. On oublie pourquoi exactement on est là. Et on tire son aiguille et on fait. Et ça, c'est précieux. Et ça crée quelque chose entre les gens qui sont dans la pièce. Il se passe quelque chose que je ne sais pas définir. C'est difficile avec les mots d'expliquer tout ça. Mais pour moi, ça, c'est du lien social. Et c'est finalement... à cette étape de mon parcours, je crois que c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est la fonction sociale. L'homme est un être social. L'être humain, vraiment, s'il n'a pas de social, il dépérit. Et on vit dans un monde où le social, c'est difficile, on n'a pas de crédit. Enfin bon, je ne vous fais pas de dessin, vous le savez tous. Comment faire pour remettre en route cette machine? C'est pas vraiment une machine, c'est une bête.
Et tu es même sorti d'aller au-delà de l'espace social, puisque tu es allé dans la rue et précisément sur la place de la cathédrale, là où avec tout plein de gens vous avez réalisé un pullover pour un arbre, pour un platane,
le pull du platane. Ça, c'était une belle épopée. C'est rigolo parce que je suis jamais allée en Inde et j'ai plein de copains qui sont allés en Inde ou dans les pays asiatiques et qui rentraient en me disant oh, tu sais, là-bas les couturiers, ils s'installent dans la rue. Et ça me parle, ça, de m'installer dans la rue avec ma petite machine, trois fois rien devant moi, et puis de coudre devant les gens. Et il se trouve que je ne suis pas en Inde, je suis en France, et que faire ça, c'est un petit peu compliqué, tout ça. Par contre, tricoter, c'était beaucoup plus facile. Donc je suis arrivée, finalement, autour du pull de platane. Je suis arrivée à réaliser un vieux rêve, c'est de m'installer dans la rue et de faire ce que j'aime faire autour du fil. Et en plus, Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, parce que j'avais pas rêvé ça, d'arriver à inclure les gens. Et ceux qui ont envie de tricoter, ils peuvent le faire aussi. Et ce qui était vraiment chouette sur le pull du platane, c'est qu'il y avait un truc commun. On tricotait pas pour se faire une écharpe ou pour faire une écharpe pour le voisin. Non, on tricotait pour un truc qui allait rester sur place et qui allait être pour tous, même pour ceux qui tricotent pas. Et ça, c'était chouette. Ça, c'est une réussite.
Alors, j'aimerais te demander, Marianne, si tu as une idée, certainement, mais me dire ce qu'est le bonheur pour toi et si la couture a pu t'amener à avoir une idée qui est la tienne, mais une idée de ce qu'est le bonheur.
Ouais, pour moi, le bonheur, c'est le contraire du malheur. Et je crois que dans ma vie, j'ai eu à peu près... Si aujourd'hui, je fais... Si je mets tout dans une balance, d'un côté, je vais mettre le bonheur, de l'autre côté, je vais mettre le malheur, et puis ça va s'équilibrer à peu près. Voilà, pour moi, le bonheur, c'est ça. Et que, en fait, la couture, parfois, elle m'a apporté beaucoup de bonheur, parfois, elle m'a apporté beaucoup de malheur aussi. J'ai bouffé des patates, oh là là. Voilà, donc je ne saurais pas dire par rapport à la couture. Par contre... La couture, ce qu'elle a apporté dans ma vie, elle m'a permis, aujourd'hui j'ai 50 ans, et je crois que j'en suis à peu près au même stade que quand j'avais 6 ans. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai pu rattraper tous les petits morceaux. J'étais un peu éparpillée, éclatée, tout ça. Et avec la couture, j'ai réussi à reprendre les petits morceaux, puis à les rattacher les uns avec les autres. Et là, je commence à avoir un bout d'image. Mais j'ai pas fini, l'image n'est pas complète. Donc, je vais coudre encore. Je vais tricoter du lien social. Ça, c'est je crois que c'est quelque chose qui peut ajouter du sens à ma vie.
Marianne, tu me proposes d'écouter une musique de ton choix et je voudrais que tu nous, si tu veux bien nous présenter cette musique et le pourquoi de ce choix.
Eh bien, c'est Bésame Mucho, parce que ça m'est passé par la tête. J'aime beaucoup cette chanson, je la fredonne assez souvent. Je ne sais pas plus pourquoi.
Chanté par Cesaria Evora.
Par Cesaria Evora, évidemment, la plus grande.
Merci Marianne, on l'écoute.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo de. tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como se fue esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después.
Je veux maintenant m'adresser à la société de ceux qui aiment la mousse au chocolat et à la société de ceux qui ne l'aiment pas encore. Il y a ceux qui l'apprécient un peu forte, bien noire, ou alors plus sucrée, très mousseuse, plus dense, légère. Qu'on la mange tout d'un coup ou par petites touches, avec les doigts ou avec une cuillère, avec le café ou avant le café, au dessert ou dans l'après-midi, quand on est triste parce qu'elle console ou plus joyeux devant la télé ou en écoutant Erdiwa. Mesdames et messieurs, gens de la SMAC, Société des mangeurs de mousse au chocolat, c'est nouveau, je l'ai inventé ce matin, je vais maintenant vous donner la recette de la mousse au chocolat. Vous pouvez toujours la trouver sur le net, marmiton.org, cuisine à Z ou 750g.com, mais c'est pas pareil. Écoutez bien, mais ne le répétez à personne. Tout d'abord, un conseil, ne pas se décourager. Il faut persévérer. La mousse au chocolat est sensible, fragile, délicate. Elle réagit au froid, au chaud, à l'humidité ambiante, à l'humeur du cuistot. Elle est aussi capricieuse et très versatile. On croit parfois réussir, tout bien faire comme il faut, et ben non, c'est raté. Ne pas faire fondre le chocolat avec des dents, il est susceptible. Alors voilà. Vous commencerez à faire fondre au bain-marie 240 g de chocolat et 60 g de beurre. En ce qui me concerne, j'utilise du chocolat à 70% que je trouve à la Carline. Il est déconseillé de casser la tablette sur la tête de son voisin, à moins qu'il ait la tête dure. Pendant que le chocolat et le beurre fondent doucement, il s'agit de séparer le blanc et le jaune de 6 œufs. Faut le coup de main. Cassez l'œuf d'un coup sec sur le bord du saladier, mais sans exagérer. Pas trop fort, mais suffisamment pour que la coquille se casse net. Quand je pense qu'il y en a qui font ça d'une seule main. Bon, on n'en est pas encore là. S'il y a un peu de jaune dans le blanc, c'est pas terrible. Il se peut qu'il monte moins bien, les blancs. Alors oui, maintenant, il s'agit de monter les blancs en neige, bien ferme. On peut s'aider d'un batteur électrique. C'est pratique. Mélanger 60 g de sucre au jaune et incorporer le chocolat fondu. Attention, il ne faut pas qu'il soit trop chaud, ni trop froid, bien entendu. C'est l'instant délicat, j'allais dire de chimie. Souvent, j'ajoute un peu d'eau. Il semble que le chocolat apprécie. Pourquoi ? C'est sa magie et son mystère. Enfin, prenez le temps d'incorporer le blanc en neige au chocolat avec une spatule souple. Votre geste doit être ample. Exagérez pour commencer s'il le faut. Allez de bas en haut. Faites-le à l'abri des regards si vous vous sentez qu'il y a un peu de gêne. C'est un peu le moment d'expression où tout se fait. C'est l'instant d'intimité. La mousse doit être mousseuse. Et si vous approchez l'oreille, vous pouvez presque entendre le bruit du sable sous les vagues. Presque la musique du vent dans les arbres en automne. Presque vous trouverez la douceur d'un pull de laine tricoté par Marianne Godès. Presque, non, c'est sûr, vous serez heureux. Comme sur les hauteurs, un peu loin de tout, là où tout est possible. Voilà les amis, voilà la recette de la mousse au chocolat. Je voudrais pour finir vous faire écouter un extrait d'un concerto pour harpe de Jean-Sébastien Bach, interprété par l'accordéoniste Richard Galliano. Il y a quelque chose sans doute d'un peu triste, d'un peu mélancolique dans cette musique. Mais quand on se lève de sa chaise, de son fauteuil, c'est pour mieux repartir sur les chemins. Et c'est pour suivre encore le fil de sa vie. Voilà les amis, merci. Merci à Louis pour la technique et merci à Marianne pour tout ce qu'elle fait. Sachez que vous pouvez la retrouver tous les mercredis au Loco Loco de 15h à 20h pour le garage à fringues. Et pour finir, je veux dédier cette émission à Marie qui a travaillé avec beaucoup d'énergie au Loco Loco durant plus d'un an. Voilà les amis, bonne route à vous tous.
Merci à toi Vincent.
Thank you.
C'était Autour de la table, une émission présentée par Vincent. On se retrouve le mois prochain. Au revoir. De la table. Resto, radio, loco.